histoire. Un immeuble de 5 niveaux en construction s'est effondré hier matin dans la commune de Kassavubu. Le bilan provisoire fait état de 7 morts et d'autres pourraient se trouver sous les décombres puisque cet immeuble s'est écroulé sur la maison de la parcelle voisine. Certains experts affirment que le manque de respect des normes de construction serait à la base de ce drame, ce que rejette l'ingénieur qui a construit cet immeuble. Quelle analyse faire de ce drame et que faire pour le prévenir ? Pour en parler, je reçois Jean-René Bongui. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Vous êtes directeur de cabinet au ministère de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat, Apollinaire Saloumou. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur Alain.
Vous êtes architecte, également consultant en environnement et en construction. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Lui, c'est maître Ruffin Louco, chercheur en droits humains. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Vous le savez, ici à Kinshasa, un immeuble de 5 niveaux en construction s'est effondré mercredi matin. C'est au croisement des avenues Gambela, Dibaya, dans la commune de Kassavubu. Selon plusieurs témoins, au moins 7 personnes sont mortes. D'autres seraient enfouies dans les décombres puisque cet immeuble s'est écroulé sur la maison de la parcelle voisine. Le manque de respect des normes de construction serait à la base de ce drame selon certains experts. Propos que rejette l'ingénieur qui a construit cet immeuble joint par Radio Okapi. Innocent Linga, reportage.
Des témoins affirment que cet immeuble s'est effondré vers 6h du matin. À voir comment il est rasé, on croirait qu'un séisme est passé par là. Les habitants du quartier déplorent le manque de respect des normes de construction.
Si tu regardes même le barre de fer de 6, de 7, alors qu'il fallait des barres de fer au moins de 25 pour élever la maison de 5 niveaux. La qualité de brique, c'est regrettable. La maison de 5 niveaux avec une brique qui est légère comme ça, comme un biscuit.
Mais l'ingénieur King Setimgu, constructeur de cet immeuble, rejette ses allégations et attribue ses dégâts à une colonne, selon lui, qui a pété.
On a très dédimensionner notre fondation, on l'a fait avec des barres de 14. On a monté les dernières barres de fer qui est au-dessus, ce sont des barres de 12. Ce ne sont pas des barres de 6, des barres de 8 comme les profanes disent. La colonne a pété. C'est l'une des colonnes principales qui a cédé. Nous ne pouvons pas savoir que non, une seule colonne qu'on a déjà arrangée peut endommager tout un édifice.
Quant aux morts, beaucoup de témoignages parlent d'au moins 7 soutiraient déjà des décombres. Mais ces nombres, soutient-on, pourraient être revus à la hausse.
Merci Innocent Olinga. Jean-René Bongui, vous êtes directeur de cabinet au ministère de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat. Comment expliquez-vous ce drame?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je commencerai d'abord par présenter au nom du ministre de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat nos condoléances à toutes les familles éprouvées. Et comme vous le savez, monsieur le journaliste, il y a un sérieux problème en ce qui concerne les constructions dans la ville de Kinshasa. Et il y a des textes qui sont en vigueur où il est demandé à tout constructeur de pouvoir obtenir d'abord un permis de construire, de présenter, et pour obtenir ce permis de construire, des documents qu'on exige, notamment le titre de propriété, les plans qui doivent être approuvés par les experts et des preuves de paiement à la DGRAD, ainsi que les études du sol. Malheureusement, dans les cas sous examen, ce qui n'a pas été le cas. Et après vérification, après quand même les informations que vous avez de nos experts, il s'agit ici d'un écroulement, n'est-ce pas, d'un immeuble, suite au fait que le bâtiment a d'abord basculé. Ça a d'abord basculé. Et quelles sont les causes de cette situation? Il y a d'abord le problème de négligence dont le mélange, c'est-à-dire le béton, il se pose un problème de résistance du béton. Deuxièmement, il y a le problème de dimensionnement des colonnes en fonction du lancement, c'est-à-dire la taille de la colonne. Et il y a aussi un sérieux problème du centre de gravité qui a désaxé. Ça a désaxé comment? Puisqu'il y a une mauvaise répartition de la charge entre différentes colonnes, dont le poids était mal réparti. Et l'ingénieur qui a fait ce travail, que nous suivons seulement la presse, mais que nous n'avions pas vu jusque depuis que l'événement a eu lieu jusqu'à aujourd'hui, affirme lui-même que c'est une colonne qui a les termes qu'il utilise, qui a pété, c'est-à-dire flambement de la colonne, ce qui fait qu'il y a eu eu une erreur dont, quand les travaux étaient exécutés, il s'est posé un problème de suivi, un problème de mélange. Je lui-même dis que c'est une colonne qui a été réparée. Donc il reconnaît quelque part qu'il s'est posé d'abord un problème au départ et qu'il fallait prendre les dispositions pour essayer quand même de bien armer le béton, la colonne en question, mais c'est ce qui n'a pas été fait.
Alors, au niveau de votre ministère, est-ce que en vérifiant la procédure, est-ce que cet immeuble avait tous les documents requis?
Non, monsieur le journaliste. Il y a lieu de rappeler à l'opinion nationale que nous avons au niveau, puisque le bâtiment se trouve dans la commune de Kassavou, nous avons, puis là, ça dépend de notre division urbaine de l'urbanisme. La division urbaine de l'urbanisme a dépêché une équipe qui est arrivée sur le terrain. Malheureusement, le propriétaire ou le maître de l'ouvrage a réservé, n'est-ce pas, une fête de non-recevoir à l'équipe qui est partie. Et on date, n'est-ce pas, je dois avoir même le document avec moi, on date du... au mois d'août, il y a un ordre de mission qui a été signé par le secrétaire général pour dépêcher les contrôleurs des sites. Et arriver sur les lieux, ils n'ont pas été reçus. C'est ainsi que, après avoir vérifié, puisqu'il n'y a pas, il n'y avait pas un permis de construire délivré par nos services, il n'y avait pas de titre de propriété, il n'y avait aucun document qu'on a présenté. C'est ainsi que notre directeur de l'inspection a, par sa lettre du 3 septembre 2016, réceptionné par un certain monsieur Didier Massamba, qui est le représentant du maître de l'ouvrage, où il a été ordonné la suspension des travaux. On date du 3 septembre.
Et malgré ça, les travaux ont continué.
Malgré le fait que la lettre a été bel et bien réceptionnée et qu'on a donné cette instruction, les travaux ont continué. Et voilà, cela nous a amené l'entêtement, n'est-ce pas, le refus d'obtempérer aux ordres de l'administration a conduit à cette situation dramatique.
Et malgré que la force appartient à l'État, l'État s'est avéré impuissant devant un individu.
Non, dire que l'État s'est avéré impuissant, non, l'État a fait son travail. C'est-à-dire, on a pris des mesures conservatoires de suspension des travaux et le monsieur s'est entêté. Il a défié l'État, il a défié l'administration.
Et les mesures de coercition n'existent pas?
Les mesures de coercition existent. Et notamment, la première mesure, donc, on vous invite, et deuxième, on suspend les travaux.
Et quand je continue les travaux, il ne se passe rien.
Non, quand vous continuez les travaux, mais il y a des sanctions. Il y a des sanctions qui sont prévues. Les sanctions sont prévues à l'arrêté ministériel 012 du 23 août 2016 qui modifie complètement l'arrêté ministériel 006/2014 du 24 avril 2004 et portant réglementation de l'octroi du permis de construire en République démocratique du Congo. Et quand vous lisez ce texte, dont une large diffusion, n'est-ce pas, a été effectuée. Quand vous allez au titre 10, là où il y a des sanctions, il est prévu que les travaux entrepris sans permis de construire doivent faire l'objet d'une interdiction formelle et être soumis à une procédure administrative ou de redressement, ainsi de suite.
Oui, même, monsieur le DIRCAB, lorsqu'il y a, une défense de poursuivre les travaux, oui, c'est bien, mais la personne, l'individu poursuit les travaux et après.
Et après, il tombe dans une infraction. L'infraction ici, ce sont les poursuites judiciaires à l'endroit de la personne.
Alors, il y a des informations qui nous sont parvenues qui affirment que jusqu'à présent, les secours ne sont pas organisés à l'endroit du drame. Est-ce que vous pouvez le confirmer?
Non, je ne peux pas confirmer. Affirmer que les secours ne sont pas organisés, les secours ont été bien organisés hier. Et c'est grâce à ce secours-là qu'on a pu évacuer les corps qui se trouvaient sur les décombres. Et son Excellence, Monsieur le Premier ministre, lui-même est arrivé sur les lieux hier, accompagné de deux ministres du gouvernement central, notamment le ministre de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat, le ministre des Travaux Publics, et il y avait aussi le gouvernement provincial et le DG de l'OVD. On a pris des dispositions, c'est ainsi que cela a permis, j'ai vu aussi en même temps le génie militaire qui est arrivé sur les lieux, les dispositions ont été prises pour arriver à évacuer les corps. Ça, c'est la priorité d'abord, avant de procéder, n'est-ce pas, à la démolition complète de l'humain.
Est-ce que les décombres ont été évacués?
Non, les décombres n'ont pas encore été évacués. Il y a un travail qui se fait, un travail de préparatif.
Et donc, il se pourrait qu'il y ait encore des gens sous ces décombres?
Bon, vérification faite selon les dernières informations que nous avons reçues à 17h, il y a il n'y a plus de corps en dessous des décombres.
Merci. Apollinaire Saloumou, vous êtes architecte, également consultant en environnement et en construction. Comment vous expliquez ce drame? Vous avez suivi Jean-René Bongui, directeur de cabinet au ministère de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Avant d'expliquer, comme vous le demandez, le drame, je voudrais aussi compatir au malheur qui frappe la famille. Je voudrais vous dire, ce drame-là, ça ne doit pas être quelque chose comme si c'est le premier au Congo. C'est un drame, ce sont des drames qui se font partout ailleurs. Mais il faut circonscrire les contextes dans lesquels cela est arrivé. Et peut-être aussi pour couper court à certaines langues qui se délient, pour jeter de l'anathème à la profession. Ici, je voudrais aussi parler en termes un peu plus clairs pour que ceux qui vont nous suivre ne fassent pas l'amalgame. Parce que si je prêche pour ma chapelle, ce n'est pas un péché. Mais si on prêche contre sa chapelle, c'est comme si on fait de l'autoflagellation. Mais l'honnêteté intellectuelle et l'habileté scientifique nous poussent à être clairs et précis.
Et objectifs.
Objectifs. Voilà. Ce drame est arrivé, comme M. le Dirkab venait de les démontrer tout à l'heure. À première vue, c'est un fait de malfaçon qui a conduit à ce drame. De sorte que, en arrivant in situ, vous trouvez une situation à vide et sans pour autant être expert en la matière, de manière à ce que, pour arriver à un résultat concret des analyses, il faut que l'État puisse dépêcher certains spécialistes en la matière. Mais on a remarqué qu'il y a un problème de malfaçon, un problème aussi de non-suivi des travaux.
Quand vous parlez de malfaçon, vous voulez parler de mélanges qui n'ont pas été bien faits.
Ça constitue tout ça. Quand je dis malfaçon, on peut trouver le mélange qui n'a pas été bien fait. On n'a pas utilisé peut-être... parce que quand on dit le mélange qui n'a pas été bien fait, on prend les échantillons. Après, ces échantillons vous certifient qu'il fallait utiliser le béton de tel dosage, de telle qualité. Et on doit aussi utiliser les armatures de tel diamètre. On doit aussi utiliser peut-être le coffrage et le bois de telle dimension. Telle qualité de briques. Je parle aussi de malfaçon parce qu'il y a aussi des problèmes techniques. Parce que quand vous avez une colonne qui sait déjà, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Mais les observateurs avertis, ils ont vu aussi certaines colonnes dont on a noyé des tuyaux en PVC qui prennent presque la moitié du diamètre de la section de la colonne, sur les colonnes circulaires. Vous avez une section de 30 cm de diamètre, mais vous avez une colonne, un tuyau PVC, peut-être pour les évacuations aux états supérieurs, de 15 cm ou 16 cm. Vous avez déjà diminué la capacité portante de la structure. Et il faudra aussi savoir si les études du sol ont été bien élaborées et acceptées et vérifiées. Il faudra aussi dire, peut-être les suivis aussi, les contrôles n'étaient pas bien assurés. Parce que quand vous avez un chantier de telle envergure, vous avez une entreprise qui est à pied d'œuvre, que cette entreprise doit avoir des gens qualifiés qui vous font les attachements et les rapports attitrés du travail, et puis aussi qui doivent être à pied d'œuvre sans pour autant jeter la responsabilité à qui que ce soit. Voilà un peu ce qu'on peut exprimer un tout petit peu moins.
Alors, Apollinaire Saloumou, comment ça se passe? J'ai de l'argent, j'ai mon argent, je voudrais construire un immeuble. Quelle est la procédure sur le plan pratiquement technique, vous en tant qu'architecte?
La première procédure, c'est que l'architecte entre en connaissance du lieu du terrain avant il se contacte avec son client ou bien le maître d'ouvrage. Il élabore son plan, ce qu'on appelle le carnivore. Quand il élabore ça, vous, architecte, vous essayez un peu de faire les esquisses d'avant-projet. Mais vous devez aussi vous informer si la personne qui vous demande ses travaux est propriétaire de ces terrains et a des documents requis pour à ce que vous, architecte, vous puissiez commencer les travaux. Vous devez vérifier aussi. Les architectes ont aussi des avocats conseils qui vérifient au titre foncier si réellement que ces documents-là sont valables. Et vous vous mettez à faire vos esquisses d'avant-projet dont vous discutez avec votre client. S'il a aussi un architecte conseil, il peut le mettre à profit pour discuter sur le fonctionnement et tout. Et vous tombez d'accord Et vous voulez aussi, vous devez aussi associer certains ingénieurs, les ingénieurs, les ingénieurs techniciens, les électriciens, les ingénieurs qui dimensionnent, les ingénieurs en construction, les ingénieurs civils qui font le dimensionnement. Et puis, si vous tombez d'accord sur les grands projets, vous devez faire les projets d'exécution. Et là, vous reprenez encore certaines études. Parce que là, ce n'était que l'ébauche de ce qui va être la structure ou le bâtiment. Et après cela, vous élaborez votre projet définitif ou le projet d'exécution. Mais vous n'allez pas descendre directement sur le chantier. Vous devez amener ce document au ministère de l'Urbanisme et Habitat pour avoir les quitus et les permis de construire. Et l'Urbanisme et Habitat, qui a des spécialistes, va encore réétudier toutes ces études qui ont été faites. Et à cela, il faut qu'il y ait une suite logique. Les ingénieurs, les maisons qui ont fait, les études qui doivent être faites, soit au laboratoire. Dans les temps, on avait que les laboratoires de la fiche de route, mais il y a beaucoup maintenant qui sont dans la ville à qui on peut se confier pour avoir les études du sol. Vous pouvez aussi aller à les sites géographiques pour vous donner aussi certains éléments du sol. Ouais.
Alors avant que je ne donne la parole à Maître Louko, il semblerait que ce bâtiment de 5 niveaux était préalablement prévu pour 3, mais qu'on aurait ajouté 2 au-dessus. Est-ce que vous pouvez le confirmer?
Bon, je ne peux pas le confirmer parce que tout ce qu'on nous dit, c'est des bouches à l'oreille. Il faut se remettre à l'état qui ces planches de l'architecte sont visibles et ont été déposées au ministère de l'Urbanisme pour les quitus des permis de construire pour y affirmer.
Voilà. Maître Ruffin Louko, bonsoir. Merci d'être venu. Vous êtes chercheur en droits humains. Maître, comment vous, du point de vue de la loi, du droit, vous analysez ce drame?
Bon, merci. Merci. Allez pour l'invitation. En particulier, nous nous sommes retrouvés ici avec la même équipe. Il y a quelques mois, on pouvait considérer que le malade était dans les soins intensifs. Maintenant, il vient de décéder. Nous nous retrouvons maintenant pour débattre. Le malade est décédé.
C'était lorsque l'immeuble au quartier GB s'était écroulé.
Nous nous sommes retrouvés ici. On n'a tiré aucune leçon. Et le premier drame, c'est que personne n'est responsable. Nous allons voir défiler tout le monde à la radio, à la télé. Il n'y a aucun problème. Personne n'est responsable. Ni le ministre provincial de l'urbanisme et habitat, ni le ministre des affaires foncières, je parle du provincial d'abord, ni le gouverneur de la ville, ni le bourgmestre de la commune de Kassavubu, ni personne au niveau national. Personne n'est responsable. Personne. Ça fait très mal. Si les gens n'ont pas la culture de démissionner, alors la hiérarchie doit se rappeler qu'elle peut révoquer des gens. Pourquoi on doit révoquer les gens? Parce que tout simplement, les lois disent qu'il n'y a pas de construction. À l'époque d'ailleurs, pour construire une maison, rappelez-vous, la deuxième république, il fallait une ordonnance présidentielle. Une maison en étage, hein? Plus de 5 étages, il fallait une ordonnance du président de la république, Mobutu Sese Seko, au gouvernement de la part. Pour avoir la possibilité. Maintenant, depuis que c'est démocratisé, c'est dans tous les sens. Et le drame, c'est lequel? C'est que, chez nous, contrairement à tout le pays du monde, il est interdit à la population de construire pour elle-même. C'est l'État qui construit pour la population. C'est pas la population qui construit pour elle-même. Je cite Kaouka, Bandal, Yolo. Je peux citer si l'État n'est pas national, Makisso, si vous allez, ça, je cite rapidement, Kisangani, Makisso, Lubunga, vous allez à Bukavu, Kamortea, et Kasayo, Buholo, Chimbunda, et pour ne citer que cela.
La liste n'est pas exhaustive.
Alors, pour dire tout simplement, donc, je peux citer comme ça toutes les villes, c'est l'État qui a construit, avec tous ces organismes. C'est l'État qui construit. Regarde les maisons de l'INSS. Cette histoire de laisser la population, je sais que l'architecte sera en désaccord avec moi et j'aimerais que sur cette question-là, vous nous redonniez conjointement la parole. C'est vaille que vaille. Vous savez quoi? Les architectes, en principe, devraient être organisés selon des agences. Maintenant, cette façon-là pour les facultés de nous envoyer des architectes kamikazes Amazon qui vont dans tous les sens, partout on les propose de construire, ils construisent. Ils ont besoin de l'argent. Ils donnent des plans sur des maisons de 5 sur 4, de 10 sur 6. Maisons, c'est quelle maison ça? Qui répond à quel critérium international pour construire?
Alors maintenant, la nouvelle voie face à quelqu'un qui a construit, selon le premier architecte. Parce que là, nous avons suivi sur le média deux architectes. Le premier, ils se sont entendus et il a amené la maison jusqu'à trois niveaux. La maison était de trois niveaux. Alors, le deuxième architecte qui a terminé la maison, c'est lui qui a ajouté les deux niveaux. Et vous savez, je ne suis pas architecte, je ne suis pas ingénieur, mais pour ajouter des niveaux, ça veut dire trois dalles. Je peux vous expliquer d'une manière terre à terre que signifie une dalle. Si la maison est plus ou moins grande, une dalle, c'est au minimum 120 à 150 sacs de ciment. Lorsque vous ajoutez la caillasse, 25 à 30 tonnes. Lorsque vous ajoutez les 20 à 30 tonnes de sable, c'est lourd une dalle. Et lorsque vous devez ajouter sur trois niveaux qui étaient convenus, deux niveaux, ça veut dire trois dalles, naturellement, si cette fondation initiale n'a pas été conçue pour, n'est-ce pas, supporter la charge, la maison va s'écrouler. Vous constatez que la maison s'est écroulée, ça qui est pluie, intempérie, ni courant d'air. Elle s'est écroulée, il n'y a pas eu pluie hier.
Si la mais il a plu avant-hier.
Bon, avant-hier, oui, mais hier, il n'y a pas plu. Il n'a pas plu hier pour qu'il y ait quelque chose de direct qui l'ait poussé. Alors, que dit la loi en cette matière ? Article 262 du Code civil, livre 3. Il dit ceci. Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu'elle est arrivée par une suite 1. Dit défaut d'entretien 2. Ou de vices de construction. Donc, lorsqu'un immeuble s'écroule, la loi congolaise, qui est en même temps la loi belge actuellement, et la loi française, parce que ce texte ici est textuellement le texte qui est appliqué en France, en Belgique aujourd'hui, et est appliqué également dans la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest, qui est le responsable ? Ce n'est d'abord le propriétaire. Le propriétaire de la construction. Et chez nous, la loi présume que lorsqu'il y a ruine des bâtiments, il y a un immeuble qui s'effondre. Il n'y a principalement que deux raisons, selon la loi congolaise. La première raison, c'est les défauts d'entretien, comme la maison n'était pas encore terminée. Et la deuxième raison, c'est les vices de construction. Ce qu'on considère, selon la loi, qu'il y a eu un vice, et c'est ce que l'un des architectes a dit, merci, un vice de construction, et ça c'est inacceptable parce que tout simplement l'autorité administrative n'a pas fait son travail, on n'a tiré aucune merci, leçon, maître. Et le drame est là, c'est combien ? C'est 7, 8, 10 morts.
Merci,
et donc, on doit retrouver d'abord qui est l'auteur pour qu'il puisse répondre et réparer toutes ces
problèmes. Merci, maître. Apollinaire Saloum, je vous donne la parole. Le temps, M. J.R. Bongui, de prendre pour vous cette réaction qui nous vient de la province de la Tchopo.
Joseph Bongile Ayakayaka depuis la ville de Kisangani dans la province de la Tchopo. C'est tellement pitoyable de voir ce genre d'événements survenir. Cela traduit l'image de l'enseignement congolais. La responsabilité devrait être du gouvernement congolais, car ce dernier n'a pas de politique d'urbanisation. Il vend même des terrains marécageux, il donne des autorisations de bâtir à n'importe qui. Cela ouvre la voie à n'importe qui de construire n'importe comment.
Voilà, j'ajoute cette réaction d'Eli Monédic Pemou de Mbandaka. Cet événement malheureux vient confirmer la mauvaise politique du gouvernement quant au secteur du logement. L'État a perdu son pouvoir de régulation. Les gens construisent sans tenir compte des normes. Jirbongi.
Merci beaucoup. J'ai bien suivi les questions qui nous ont été envoyées par nos auditeurs. Et vous savez, l'État, en tant que puissance publique, a comme mission de pouvoir créer des conditions pour qu'il y ait développement. Et Maître tout à l'heure a dit, non, voilà, il a donné quelques exemples, il y a des constructions qui ont été faites à l'époque de la Deuxième République, mais nous devons aussi, ça, c'est, nous reconnaissons ça, mais nous devons aussi en même temps, l'État doit accompagner, il y a ce qu'on appelle le rôle d'accompagnement de l'État en ce qui concerne le domaine des constructions. Puisque vous savez, la conjoncture que nous avions à cette époque et la conjoncture actuelle n'est plus la même, avec les difficultés budgétaires et tout ça, c'est un peu difficile. Alors, quand on parle ici de la responsabilité de l'État comme puissance publique, moi je dirais que dans le cas d'espèce, c'est le cas de qui est passé à Kassovo, l'État a fait son travail. L'État, l'administration est descendue sur les lieux. L'administration, l'État a suspendu les travaux. Et le monsieur s'est entêté, il a refusé d'obtempérer à une décision, n'est-ce pas, de l'administration. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand on dit qu'il y a cette mauvaise politique du gouvernement, ce qui concerne le secteur de l'habitat, ainsi de suite, non, il y a mauvaise politique, non.
Y a-t-il une politique d'aménagement, d'urbanisation?
Oui, oui, il y a tout un plan. En fait, la difficulté que nous avons dans notre pays, c'est d'abord, en ce qui concerne une politique nationale d'aménagement du territoire, que nous n'avons pas depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, et c'est le travail qui est en train d'être fait. C'est-à-dire, cette politique d'aménagement du territoire va permettre ce qu'on appelle l'affectation des sols, l'utilisation. Où on peut dire cet espace c'est pour un usage agricole, ici c'est pour l'habitation, là c'est un usage industriel et ainsi de suite. Nous sommes encore dans ce processus-là, ça c'est un. Et deuxièmement, ce que nous devons dire, il faudrait aussi quand même que nous puissions interpeller nos compatriotes suite au comportement, puisque les gens veulent construire n'importe où. Quand on va construire, par exemple, dans des cas de certaines constructions, dans les marécages et ainsi de suite, souvent dans la plupart des cas, on met l'État devant le fait accompli, on ne demande même pas l'autorisation. De l'État.
Le DIRCAB.
Oui, bon, dire que l'État est l'actif. L'État prend des dispositions, l'État fait son travail, mais il faudrait aussi que la population, n'est-ce pas, puisse aussi comprendre et faciliter aussi la tâche à l'État. Nous prenons le cas, comme le cas de Kassavou. L'administration fait son travail et le maître de l'ouvrage dit non, il fait obstruction, n'est-ce pas, à l'action de l'État. Mais s'il est civilement responsable, c'est lui qui doit réparer. Même le coût, les travaux pour dégager le chantier, enlever tout ce qu'il y a comme débris, c'est à charge, n'est-ce pas, du propriétaire du bâtiment.
Il y a Innocence Wale qui dit je suis moi-même victime car habitant un quartier résidentiel à Kinshasa, mais mon voisin a morcelé et a vendu. Le nouvel acquéreur a construit un immeuble d'un niveau. Je suis en danger permanent. Monsieur le DIRCAB, quand on observe les nouveaux quartiers qui pilulent à travers la ville de Kinshasa, l'État est pratiquement absent et le peuple est délaissé à lui-même. Malheureusement, l'État ne se plaint pas, mais devrait agir.
L'État, en fait, quand vous dites que l'État laisse l'État agir, non, vous assistez à des cas où il y a des démolitions de constructions anarchiques. L'État fait son travail. Mais malheureusement, il y a toujours ce qu'on peut considérer comme étant l'incivisme dans le secteur immobilier, dans le secteur foncier, qui nous conduit à des situations que nous déplorons aujourd'hui. Puisque si on respectait l'État et qu'on suivait la procédure, les normes, ainsi de suite, on ne pouvait pas arriver à des situations pareilles.
Et puis, est-ce qu'il y a des normes pour construire dans un quartier populaire, dans un quartier résidentiel? Je présume que ça devrait exister.
Oui, il y a des normes qui existent. C'est ainsi qu'on demande à toute personne qui veut construire de pouvoir s'adresser au service de l'urbanisme et habitat. Pourquoi il doit s'adresser? Parce que c'est ce service-là qui doit voir d'abord les plans. Est-ce que les plans sont-ils conformes? On doit approuver les plans. On approuve les plans pour se voir. Ce n'est pas dans tous les quartiers qu'on peut construire à 5 niveaux, 6 niveaux. Il y a des terrains marécageux, il y a des terrains sablonnés, ainsi de suite. Et il y a le travail, c'est fait au niveau de l'administration. Il y a toute une commission qui siège au niveau du ministère avant la délivrance du permis de construire. Mais dans le cas ici, il n'y a pas un permis de construire qui a été délivré, ni par la province, ni par le gouvernement central.
Merci Apollinaire Saloumou. Il y a pour vous cette réflexion qui nous vient de Kinshasa.
Dans la ville province de Kinshasa. Pour prévenir ces drames, les propriétaires des maisons doivent se limiter au pouvoir financier et laisser le pouvoir technique aux ingénieurs, car la plupart des maisons sont construites dans la précipitation selon la pression et la volonté des propriétaires, au lieu de suivre le temps normal par étape de construction. Et les ingénieurs doivent dire la vérité à leurs clients, au cas où les devis ne répondent pas aux exigences du marché.
Apollinaire Saloum.
Oui, merci, M. Alain. Mais avant de...
Répondez d'abord à l'auditeur et puis vous allez revenir au propos de Maître Louko.
Oui, je crois qu'il n'a pas posé une question, il a juste fait une proposition. Que ce qu'il faut faire quand on veut construire.
Et mais souvent, vous, les architectes, vous cédez aux pressions du propriétaire qui amène ses moyens, qui veut une maison en étage dans 1, 2, 3 mois.
Non, pas nécessairement. Pas nécessairement, M. Alain. Là, je ne serais pas d'accord avec notre auditeur. Parce qu'il y a des maisons aussi qui peuvent monter avec une allure vertigineuse. Ça ne dépend de la manière qu'on le fait. Vous êtes sans ignorer, vous allez en Chine, vous allez ailleurs, vous trouverez qu'il y a des maisons qui montent comme les champignons. Hein? C'est parce qu'ils ont des équipements ou bien des techniques appropriées pour aller avec un bâtiment de ce sens-là. Mais quand il y a le clientélisme, Il y a des architectes qui refusent carrément de dire au maître d'ouvrage que ce n'est pas pour rien que vous voyez que tel a changé son architecte, tel a changé l'ingénieur. Et puis dans cet amalgame-là, il faut savoir qui est architecte, qui ne l'est pas. Quand on prend son cousin qui a fait la menuiserie parce qu'il a vendu des briques, vous le prenez comme un ingénieur, qu'est-ce qu'il va faire?
Ou un maçon expérimenté.
Expérimenté. Il avait construit les maisons de Belges. Vous savez? Alors, pour revenir à maître Loco, à qui j'ai beaucoup d'estime par son art oratoire, mais je ne suis pas d'accord avec lui par la réflexion qu'il a faite bien avant. Il fallait qu'il lise d'abord son article avant de confirmer que toutes les constructions sont faites par l'État. Sinon, il n'allait pas le faire. Même sous d'autres cieux, l'État a aussi sa part de responsabilité pour être promoteur immobilier, mais il y a aussi des particuliers. Parce que quand il donne au propriétaire de réparer les dommages causés par un effondrement, il reconnaît sciemment que les privés aussi peuvent aller dans ces domaines. Ce n'est pas seulement l'État. Et pour là où je ne suis pas d'accord avec lui aussi, quand il parle des architectes kamikazes, c'est peut-être un terme qui semble être péjoratif, comme moi je dirais aussi qu'il y a aussi des avocats qui sont des rangers, qui font des crimes. Ce n'est pas pour rien, il y a dans l'État, lui-même il essaie, qu'il y a des juristes qui nous ont dit que la conférence nationale est égale à la conférence nationale constitutionnelle. Il essaie. Donc il ne faut pas.
Dans tous les domaines,
il y a des brebis galeuses. Alors il y a aussi ceux-là qui ont la tête haute, qui défendent la profession comme il faut. Il faudra aussi nous aider à aller de l'avant. Peut-être la maison où il y a dans la ville, si vous circulez, vous trouvez des bâtiments que les architectes ont fait. Ce n'est pas pour rien que quelqu'un fait les études d'ingénieur pendant 7 ans et 6 ans. Pour avoir son diplôme. Dans le même ordre d'idées, vous trouvez aussi des bébés, regardez ce qu'on venait de les dire. Aussi, comme disent nos auditeurs, ces bâtiments aussi, en dehors de ça, s'il a été prévu 3 niveaux et on y ajoute 2 niveaux de plus, vous savez qu'il y a aussi une superstructure qui intervient, dont les bâtiments ne doivent pas être solides. Vous allez voir aussi ces mêmes bâtiments-là, quand vous voyez la charpente qui a été faite, ce sont du tube qu'on ramasse, qu'on achète dans des quincailleries ici, que certaines usines qui nous produisent, qui ne répondent même pas aux normes. Dernièrement, nous avons eu un salon de construction ici, il y a 2 mois, dont le DIRCAB a participé aussi. Il n'y a qu'une seule société ici à Kinshasa qui produise, par exemple, des barres de fer qui sont dans les normes. Les autres, et là, c'est sans ignorer qu'on ramasse des résidus de véhicules pour aller transformer ça en barre de fer qui ne répondent plus aux résistances portantes et les capacités nécessaires.
Alors, vous avez fait allusion à la qualité du constructeur, finalement, qui est ingénieur, qui est architecte, qui l'est, qui ne l'est pas.
Bien sûr. Il y a moyen de faire cette différence. Parce que même celui qu'on a, excusez-moi de prendre une parenthèse, celui qu'on est en train de parler de l'ingénieur, il y a beaucoup de gens qui doutent même de son origine ou de sa qualification. Voyez-vous, nous ne pouvons pas entrer dans cette guerre, mais l'architecte, c'est lui qui fait les sciences des bases, et puis il fait les études d'architecture. Et l'ingénieur, on trouve les ingénieurs constructeurs, on a les ingénieurs civils. Les ingénieurs civils, ce sont ceux-là, avec les ingénieurs techniciens, qui font les études de la structure. Et aussi les ingénieurs en construction, qui fait office de celui qui fait l'exécution et la mise en œuvre, qui pourra être entrepreneur, qui pourra être aussi avec des équipes, des ingénieurs qui font le suivi et le contrôle. Et l'architecte, qui est les unitaires du projet, qui est le maître d'œuvre, fait office de lecture de mémoire pour interpréter ce qu'il a fait sur les graphismes, que ça soit transformé en physique.
Voilà. Merci. Maître Loco, il y a pour vous cette réaction qui nous vient, une fois de plus, de la province de la Tchopo.
Je peux dire aussi, moi, depuis Kisangani, il n'y a pas 5 ans, un immeuble de César était effondré à Kinshasa. La question qu'on se pose est celle de savoir à qui revient la faute. À notre humble avis, l'État congolais, à travers le ministère du Plan, devrait en premier lieu descendre sur le terrain avant d'accorder à la personne qui construit l'autorisation de bâtir et se rassurer de la qualité du sol par rapport aux jardins de la maison que l'intéressé veut construire. Il faut aussi savoir, est-ce que l'ingénieur qui construit a des mérites?
Quelles sont les sanctions prévues par la loi dans un tel cas?
Bon. D'abord, je suis désolé par rapport au DIRCAB qui dit que l'État a fait son travail. Je suis désolé. L'État ne peut pas interdire des travaux et la personne s'entête et on le laisse. Et puis, nous sommes ici, nos auditeurs nous écoutent. Qui est ce propriétaire d'une parcelle qui construit avec architecte, ingénieur des bâtiments et maçon, tout ça? Mais à la limite, si la personne s'est civilisée, il cherche soit un ingénieur, soit un architecte, il lui fait le plan. Et puis c'est tout, ce sont les maçons qu'on retrouve commencer les travaux. Donc,
où est l'état dans la chose? D'abord, n'oublie pas, vous là, médias, vous avez diffusé que dans les secteurs, il y a des ministres et on a arraché la signature. Il y a d'autres qui sont sous interdiction. Dans les secteurs ici. Je ne vais pas donner de détails, tout simplement parce que c'est vaille que vaille. Et il y a beaucoup d'amateurs qui sont responsabilisés, n'est-ce pas, comme responsables du domaine foncier ou de même l'aménagement du territoire. Nous les sentons là. Où sont les ministres concernés? Où sont les chefs de division respectifs? Un immeuble arrive à 5 étages, aucun permis. Aucun permis. L'ingénieur est Bongi. Je suis désolé, collègue. Saloum, je suis désolé. Je m'excuse, je calme. Saloum, je suis désolé. Dans tout le pays du monde, c'est lui qui construit. C'est le pouvoir public avec ses partenaires. Je peux vous donner l'historique de la construction. S'il vous plaît. On vous a donné la parole, moi je n'ai pas réagi. Je peux vous donner des exemples depuis l'histoire jusqu'à maintenant. Tout le pays du monde, ce qui construit, c'est ça. C'est le pouvoir public avec ses partenaires public ou privé.
Alors, maître, tant que nous ne nous perdions dans cette polémique, restons dans le cas qui nous concerne. J'ai posé une question précise. Quelles sont les sanctions prévues par la loi?
Non, mais il faut d'abord qu'on arrête et l'ingénieur, et l'architecte, et les propriétaires. Il faut qu'on les arrête pour qu'on sache qui y est à la base.
Et l'État qui est laxiste dans tout, ça n'a pas de responsabilité.
L'État, non mais, oh là, c'est pourquoi on doit révoquer déjà. On a vu, on a constaté que l'assistance sociale, c'est quoi comment on l'appelle? L'ambulance est arrivée à 10h. On a vu ça. Et une ambulance avec un chauffeur. Donc il n'y avait aucune équipe d'appoint. Nous ne savons même pas si l'ambulance est venue d'où. Nous ne savons pas. En tout cas, nous avons vu les preuves que l'ambulance est arrivée, mais nous n'avions pas eu la preuve que ça vient de l'autorité publique. Parce qu'il n'y avait personne d'autre. Quel chauffeur?
Pas d'infirmier, pas.
Il n'y avait personne d'autre. Quel chauffeur? C'est ce qu'on appelle le secours qui est arrivé. S'il vous plaît, notre pays ne mérite pas ça. Si vous êtes incompétent, mettez-vous de côté. Cette histoire qu'on continue chaque jour à revenir sur la même chose, on ne tire aucune leçon. L'État interdit qu'on ne continue pas à construire et la personne a construit. C'est comme si c'est le village natal. Donc, le village n'a aucune autorité. Nous considérons donc que le responsable doit être arrêté parce qu'il y a une mort d'homme. Par négligence ou par inquiétude, et ces personnes-là qui sont décédées méritent une réparation, n'est-ce pas? Et cette réparation-là permettra que tous les ingénieurs puissent, ingénieurs, architectes et consorts, eux, le ministère, puissent suivre chaque chantier en fait que ceci n'arrive. Maintenant là, vous savez, le danger c'est quoi? Ce sont les voisins maintenant. Ce n'est pas seulement ceux qui vont habiter ces immeubles, mais les voisins. L'immeuble s'est écroulé sur les maisons voisines.
Merci.
Uniquement parce que tout simplement, cet article n'a pas été le responsable d'un immeuble. Ça peut être une personne morale ou une personne physique. Mais lorsque l'État a construit, elle distribue ces maisons-là à crédit à sa population. C'est comme ça que ça se passe partout. Lorsqu'on laisse ça comme ça, on sait quel est le sort de la ville de Bukavu aujourd'hui.
Merci, maître.
Avec ces tremblements, quel est le sort de la ville de Matadi? Chaque fois qu'il y a des tremblements,
il y a beaucoup de dégâts.
Il y a beaucoup de dégâts.
Merci, maître.
Les désordres sont totaux.
Merci. Gir Bongi, bienvenue Baketa de Boutadi. Combien d'accidents et de victimes faudrait-il encore enregistrer pour que l'État congolais se réveille et réglemente le secteur? Car les gens qui travaillent au niveau de l'urbanisme semblent apparemment préoccupés par les dividendes attirés de l'octroi des autorisations de bâtir que du souci de préserver la vie de leurs compatriotes. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour prévenir ce genre de drame, Gir Bongi?
Bon, pour prévenir ce genre de drame, je crois que au niveau du ministère, nous avions mené, il y a une campagne qui a été menée et qui passe, n'est-ce pas, dans les médias, campagne sur Bukibana Bitonga Tonga. La campagne, nous avions commencé d'abord, plus après les démolitions qui ont été effectuées l'année passée, qu'est-ce que nous avons fait au niveau du ministère? On a dit, bon voilà, il faudrait maintenant une action pédagogique, c'est-à-dire arriver à sensibiliser la population. Pour, en ce qui concerne les constructions, c'est-à-dire on ne construit pas n'importe où, et puis si on veut construire, voilà la procédure qu'on doit suivre. Ça, c'est ce que le ministère a.
Est-ce que cette campagne suffit du moment où l'on sait qu'il y a des problèmes d'électricité, tout le monde n'a pas accès à l'électricité? Est-ce que cette campagne est bien ficelée?
Oui, la campagne, bon, dire que la campagne, vu l'étendue de la ville de Kinshasa, et vu aussi même l'étendue de la République, on ne peut pas mener une campagne en 3 jours, en 1 mois, 6 mois, c'est quelque chose, n'est-ce pas, qui doit s'étaler sur une très longue période. Ça, c'est un. Deuxièmement, je ne suis pas d'accord avec Maître quand il dit qu'il n'y a jamais de sanctions et tout ça, ainsi de suite. Non, vous savez, il est même interdit de voler. Mais les gens volent tous les jours. Ce n'est pas pour autant qu'il n'existe pas la loi. Il est interdit de tuer, mais les gens tuent tous les jours. Ce n'est pas pour autant que la loi n'existe pas. Mais il y a des sanctions qui ont été prises, des cas de révocation, des gens qui ont été même arrêtés pour avoir délivré des documents alors qu'il ne fallait pas. Nous, si on peut se rappeler,
les ordonnances de 2009-2010. Le cas échéant, il n'y a pas eu de sanctions, mais le propriétaire a continué les travaux impunément.
Oui, c'est-à-dire les sanctions vont tomber. Il y a toute une commission.
Après le drame.
Il y a toute une commission. Bon, c'est quand même malheureux. Mais nous avons pris des mesures, qu'on peut dire des mesures conservatoires. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour ce cas d'espèce? On construit la nuit, on construit parfois les jours fériés, et on s'arrange, n'est-ce pas, pour rendre inaccessible le chantier. Et les agents de l'administration qui arrivent, n'est-ce pas, soit ils sont séquestrés, soit on les renvoie, soit ils ne peuvent pas accéder dans le chantier. Et c'est ça un peu le drame.
Merci. Merci Apollinaire Saloumou. Il y a Bindel et Chartel Charisbo qui dit, à mon avis, l'État doit retirer à des tiers de construire maisons, immeubles, etc. Toute construction doit revenir à des entreprises dans le domaine de construction. Si quelqu'un veut construire sa maison ou un immeuble, il doit aller souscrire à une des entreprises et non à des individus. Cela permettra que les sociétés de construction embauchent plus de gens et puis permettra à la ville ou au pays d'avoir des maisons, immeubles dignes de nom.
Oui, je crois que notre auditeur a parfaitement raison, c'est une bonne proposition, mais il faut aussi construire sa proposition dans les contextes congolais.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que si tout le monde pouvait se référer à ça, ça dit qu'on n'aura pas à construire à Kinshasa. Tous les Congos, on n'aura pas à construire. Dans quel sens? Je crois que mon ami qui vient de parler, je sais pas, il peut être fonctionnaire, qui a peut-être 250 dollars comme salaire. Comment peut-il avoir une parcelle? C'est là peut-être Maître Loco pourra avoir raison en disant que nous, l'État peut construire les bâtiments.
Mais malheureusement, les maisons que l'État a construites ici coûtent énormément cher.
Énormément cher. Où vous n'avez pas l'accès. Vous voyez? C'est dans ce sens-là. Je voudrais un peu rectifier encore ce que Maître Loco dit. Pour dire que l'État n'était pas sous les liens du drame. Non, je rentre dans le truc. Hein? Moi, j'habite Limité. J'ai eu un coup de fil à 7h15. À 7h35, j'étais sous les lieux. Et curieusement, j'ai trouvé le général Kanyama était sur place. Sampo, il ne m'a pas donné mission de parler de lui, mais j'ai dit quand même, c'est une autorité qui était là pour constater les faits. Et quelques minutes après, ils ont cherché, il y avait même un tracteur sur place. Ils ont dépêché une équipe pour couper certains armatures ou bien certains ferrants pour faire sortir les gens. C'est-à-dire que l'État était quand même présent, représenté par ces gens-là. Sauf que les responsabilités peuvent être... d'une autre manière.
Alors, qu'est-ce qu'il faut pour prévenir ce genre de situation?
Pour prévenir ce genre de situation, je crois que nous serons d'accord à nous tous pour dire qu'il faudra que la personne qui demande l'autorisation de bâtir, on doit connaître son titre, ses qualités. Où est-ce qu'a-t-il fait ses études? Et puis, on doit savoir les études qui ont été faites sont conformes à la législation congolaise. Et voilà pour donner un permis de bâtir. Et qu'on s'y construit aussi sur le domaine de l'habitat en disant respecter les normes qui requièrent le secteur de la construction.
Maître Louko, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour prévenir ce genre de situation?
Il faut faire respecter nos lois. Il faut faire respecter nos lois. Il semble que d'aucuns, ils sont nombreux, qui considèrent que qu'est-ce que c'est vos histoires de lois là, vos dépitaires. Le mépris des lois dans notre pays. Nous ne nous en sortirons jamais. Faire respecter nos lois. Mais je n'ai pas dit ici aller qu'il n'y avait pas d'autorité. Les autorités sont arrivées sur le terrain. Il y avait des autorités. Moi également, j'étais là. Hein, Salomon, j'étais là. Mais je parle de secours, service de secours. S'il y a un blessé, secouru, prise en charge. S'il y a et sinistré, immédiatement évacué. C'est ça. La police être sur les lieux, c'est pas le secours. Le général être sur les lieux, c'est pas le secours. J'étais sur les lieux. Je parle des services de secours. Donc, en définitive, Alain, c'est qui. C'est-à-dire, les secours individuels n'intéressent personne. Nous avons besoin de secours publics,
organisés.
Permanent, comme on dit, cour pénale internationale, permanent, justice, alors que c'était sporadique, maintenant que ça doit être chez nous également, des services organisés, permanents.
Donc, tant que ça sera des secours, Premier ministre vient en personne, ministre de l'Intérieur vient en personne, ministre de la Défense vient en personne. Il vient voir, il amène quel secours? Les gardes du corps. Non, c'est-à-dire, service de secours. Combien de fois on a crié que l'ambulance ou bien l'anti-incendie arrive toujours 2-3 heures après que la maison ait été totalement anéantie.
Parfois donc, sans eau.
Parfois sans eau. Et lorsqu'il arrive avec eau, ça ne pousse pas. Donc, vous voyez, on dit que non, c'était une véhicule anti-incendie et à prostate. Donc, pour dire tout simplement, c'est-à-dire, je termine en disant à Saloum Bougué, j'étais de l'opprobre sur votre service, sur votre secteur. C'est un secteur noble dont on demande que ça soit organisé et
géré
dans les services.
Conclusion, c'est un appel à la population, au public, de pouvoir se conformer aux dispositions prévues en ce qui concerne l'obtention du permis de construire.
Apollinaire Saloum, juste un mot pour terminer.
Bon, c'est respecter les lois de la République et s'y conformer aux normes de la Constitution.
Merci monsieur d'avoir participé à cette émission. Merci à Guy Maté, Berry Franklin Luchaka, Jean-Noël Mokondo, Julien Nyamouini qui m'ont aidé à vous présenter cette émission. Présentation et coordination, Alain Roumouchinch. Au revoir.